Chapitre 10. Le chalet du major. La fille dans le miroir cligna des deux yeux. Il n'était que 7h15. Il n'y avait donc aucune raison pour se dépêcher de rentrer à la maison. La mère de Sophie allait certainement dormir encore quelques heures. Elle aimait bien faire la grasse matinée le dimanche. Et si elle s'enfonçait dans la forêt à la recherche d'Alberto Knox? Oui. Mais pourquoi le chien s'était-il mis à gronder si méchamment en la regardant? Sophie se leva et reprit le chemin où Hermès avait disparu en courant. Elle tenait à la main l'enveloppe jaune avec tous les feuillets sur Platon. Chaque fois qu'il y avait une bifurcation, elle restait sur le sentier le plus important. La forêt résonnait de chants d'oiseaux, dans les arbres, l'air, les arbustes et les broussailles. Ils avaient fort à faire le matin. Eux ne faisaient aucune différence entre le dimanche et les autres jours de la semaine. Mais qui avait appris aux oiseaux à faire tout ce qu'ils faisaient? Chacun d'eux avait-il un petit ordinateur dans sa tête, une sorte de programme informatique qui leur dictait ce qu'ils avaient à faire? Le sentier déboucha bientôt sur une petite butte, avant de redescendre à pic entre de hauts pins. La forêt était si dense à cet endroit-là qu'elle ne pouvait voir à plus de quelques mètres à travers les arbres. Tout à coup, elle aperçut une tache claire entre les troncs de pins. Ce devait être un lac. Le sentier continuait de l'autre côté, mais Sophie coupa à travers les arbres. Elle n'aurait trop su dire pourquoi, mais ses pas la portaient de ce côté. Le lac était à peu près aussi grand qu'un terrain de football. De l'autre côté, elle découvrit un chalet peint en rouge sur un petit terrain entouré par des troncs blancs de bouleaux. Un filet de fumée s'échappait de la cheminée. Sophie marcha jusqu'au bord du lac. Le sol était très humide aux abords du lac, mais très vite, elle aperçut une barque. Celle-ci avait été tirée à mi-chemin sur la rive. Il y avait une paire de rames à l'intérieur. Sophie jeta un regard autour d'elle. De toute façon, il était hors de question d'atteindre le chalet en gardant les pieds secs. D'un air résolu, elle se dirigea vers la barque et la poussa sur l'eau. Elle monta à bord, plaça les rames sur les pivots et éloigna le bateau de la rive. Quelques instants plus tard, elle toucha l'autre rive. Elle sauta à terre et essaya de tirer la barque à terre. Le sol était beaucoup plus incliné de ce côté du lac que là d'où elle était venue. Elle se retourna une fois, puis monta jusqu'au chalet. Elle ne revenait pas de sa propre audace. Comment osait-elle? Elle ne le savait pas elle-même. C'était comme si elle était guidée par quelque chose d'autre. Sophie alla vers la porte et frappa. Elle attendit un moment, mais personne ne vint ouvrir. Alors, elle tourna doucement la poignée et ouvrit la porte.
« Ohé ! » cria-t-elle. « Il y a quelqu'un ?»
Sophie entra dans un grand salon. Elle n'osa pas refermer la porte derrière elle. On voyait clairement que la maison était habitée. Le feu crépitait dans un vieux poêle. Ceux qui vivaient ici avaient dû partir précipitamment. Sur une grande table, il y avait une machine à écrire, quelques livres, des crayons et beaucoup de papier. Devant la fenêtre qui donnait sur le lac, une table et deux chaises. Sinon, il n'y avait guère de mobilier. Mais un des murs était entièrement tapissé de livres. Un grand miroir rond, dans un cadre en laiton, trônait au-dessus d'une commode blanche. Il paraissait terriblement ancien. Sur un autre mur étaient accrochés deux tableaux. Le premier représentait une maison blanche qui se trouvait à un jet de pierre d'une petite baie avec un hangar à bateaux peint en rouge. Entre la maison et le hangar s'étendait un jardin en pente douce avec un pommier, quelques arbustes touffus et quelques rochers. Des bouleaux en formation serrée tressaient une sorte de couronne autour du jardin. Le tableau avait pour titre « Bierchieli, à l'ombre des bouleaux ». À côté de ce tableau, il y avait le portrait d'un vieil homme assis dans un fauteuil avec un livre sur les genoux. On apercevait là aussi une petite baie avec des arbres et des rochers à l'arrière-plan. Le tableau devait dater de plusieurs siècles et s'intitulait « Berkeley ». Celui qui avait peint ce tableau s'appelait Smybert. Berkeley et Bierkeley. Drôle de coïncidence, non? Sophie continua à inspecter le chalet. Une porte conduisait du salon à une petite cuisine. On venait de faire la vaisselle. Des assiettes et des verres séchaient sur une serviette en lin et quelques assiettes portaient encore des traces de savon. Une gamelle contenant des restes de nourriture était posée à terre. Un animal vivait donc ici aussi, un chien ou un chat. Sophie retourna au salon. Une autre porte menait à une petite chambre à coucher. Devant le lit s'entassaient des couvertures. Sophie remarqua quelques poils roux qui traînaient sur les couvertures. C'était la preuve qu'elle attendait. Elle en mettait sa main au feu. C'était bien Alberto Knox et Hermès qui habitaient dans ce chalet. De retour au salon, Sophie se plaça devant le miroir accroché au-dessus de la commode. Le verre était mat et un peu bombé. Aussi, l'image était-elle un peu floue. Sophie commença par faire des grimaces, comme elle le faisait de temps en temps à la maison dans la salle de bain. Le miroir lui renvoyait exactement ce qu'elle faisait, ce qui était somme toute normal. Mais tout à coup, il se produisit un phénomène étrange. Une seule fois, l'espace d'une seconde peut-être, Sophie vit clairement que la fille, dans le miroir, cligna des deux yeux. Sophie recula effrayée. Si elle avait réellement cligné des deux yeux, comment aurait-elle pu voir l'autre cligner elle aussi? Ce n'était pas tout. C'était comme si l'autre fille avait fait un clin d'œil à Sophie. Comme pour dire « Je te vois, Sophie. Je suis là, de l'autre côté. » Le cœur de Sophie battait à tout rompre. Au même instant, elle entendit l'aboiement d'un chien au loin. C'était sûrement Hermès. Il s'agissait de déguerpir, et vite! Ses yeux tombèrent sur un portefeuille vert posé sur la commode sous le miroir en laiton. Sophie le prit et l'ouvrit prudemment. Il y avait à l'intérieur un billet de 100 couronnes, un autre de 50 couronnes et un certificat de scolarité. Sur ce certificat, on pouvait voir la photo d'une jeune fille aux cheveux blonds. La légende de la photo disait « Hilde Möller-Knag » et « Collège de l'île Sand ». Sophie eut froid dans le dos. Le chien au loin se remit à aboyer. Il fallait partir de là au plus vite. En passant près de la table, elle aperçut parmi tous les livres et les papiers une enveloppe blanche sur laquelle était écrit « Sophie ». Sans prendre le temps de réfléchir, elle la saisit et la fourra dans la grande enveloppe jaune avec tous les feuillets sur Platon et se précipita hors du chalet en refermant la porte derrière elle. Les aboiements du chien indiquaient qu'il serait là d'une minute à l'autre. Mais le pire, c'était que la barque avait disparu. Il lui fallut une seconde, disons deux, pour se rendre compte qu'elle dérivait au milieu du lac, une des rames flottant à côté du bateau. Tout ça parce qu'elle n'avait pas réussi à bien tirer la barque sur la terre ferme. Elle entendit encore le chien aboyer et aperçut déjà quelque chose qui bougeait entre les arbres, de l'autre côté du lac. Sophie avait la tête vide. Tenant la grande enveloppe à la main, elle bondit dans les buissons derrière le chalet et finit par tomber sur un marécage où elle s'enfonça à plusieurs reprises si profondément qu'elle eut de l'eau jusqu'à mi-jambe. Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait bien qu'elle court si elle voulait rentrer à la maison. Elle finit par croiser un sentier. Était-ce celui par lequel elle était venue? Sophie s'arrêta, tordit sa robe et l'eau se mit à couler en petites rigoles le long du sentier. Alors seulement, elle se mit à pleurer. Comment avait-elle pu être aussi bête? Et l'histoire du bateau, alors? Elle ne pouvait s'empêcher de revoir la barque à la dérive avec une des rames qui flottait sur l'eau du lac. Toute cette aventure était si lamentable, si minable. À l'heure qu'il était, le philosophe devait être arrivé au bord de l'eau. Il avait besoin de la barque pour entrer chez lui. Sophie eut l'impression de lui avoir joué un sale tour, alors que ça n'avait pas du tout été son intention. Et l'enveloppe, c'était peut-être encore pire. Pourquoi l'avait-elle prise? Certes, il y avait son nom dessus, et elle s'était dit que c'était un peu la sienne. Malgré ça, elle se sentait une voleuse. En plus, elle avait par cet acte clairement signalé sa présence. Sophie sortit une petite feuille de l'enveloppe où était écrit « Qu'est-ce qui vient d'abord ?» La poule ou l'idée de la poule? L'homme a-t-il des idées innées? Quelle est la différence entre une plante, un animal et un être humain? Pourquoi pleut-il? Que faut-il à l'homme pour qu'il mène une vie heureuse? Sophie ne pouvait pas réfléchir à ces questions immédiatement, mais elle supposa qu'elles avaient à voir avec le prochain philosophe. N'était-ce pas celui qui s'appelait Aristote? Apercevoir la haie après avoir couru des kilomètres dans la forêt, c'était comme toucher au rivage après un naufrage. Ça faisait une drôle d'impression de voir la haie de l'autre côté. Une fois seulement qu'elle eut rampé dans sa cabane, elle regarda sa montre. Elle indiquait 10h30. Elle rangea la grande enveloppe dans la boîte à gâteaux avec les autres feuilles. Quant au petit mot, avec les nouvelles questions, elle le glissa dans son collant. Sa mère était au téléphone quand elle poussa la porte de la maison. À la vue de Sophie, elle raccrocha aussitôt. « D'où sors-tu comme ça, Sophie ?»«
J'ai fait un petit tour en forêt, »
bégaya-t-elle.
« Ça alors, comme si ça ne se voyait pas !»
Sophie ne répondit pas. Sa robe ruisselait d'eau. « Je téléphonais justement à Yoron. »«
À Yoron ?»
Sa mère alla lui chercher des vêtements secs et fut à deux doigts de découvrir le petit mot du professeur de philosophie avec les questions. Puis, elles s'installèrent dans la cuisine et sa mère lui prépara un chocolat chaud. « Tu étais avec lui ?» lui demanda-t-elle aussitôt.
« Avec lui ?»«
Oui, avec lui, avec ton espèce de lapin. » Sophie fit non de la tête. « Mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ensemble, Sophie? Pourquoi es-tu trempée comme ça ?» Sophie gardait les yeux fixés sur la table, mais au fond d'elle-même, ne pouvait s'empêcher de trouver la situation plutôt comique. Pauvre maman. C'était donc pour ça qu'elle se faisait du souci. Elle refit un signe négatif de la tête, ce qui eut pour effet de provoquer une avalanche de nouvelles questions. « Maintenant, j'exige de connaître la vérité. Tu es sorti cette nuit, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu gardé ta robe pour dormir? Est-ce que tu es redescendu et t'es faufilé dehors dès que je me suis couché? Tu oublies que tu n'as que 14 ans, Sophie. J'exige de savoir avec qui tu sors. » Sophie fondit en larmes et se mit à lui expliquer. Elle était encore sous le coup de la peur et généralement, quand on a peur, on dit la vérité. Elle lui raconta qu'elle s'était réveillée tôt et était partie se balader dans la forêt. Elle parla aussi du chalet et du bateau, sans oublier le drôle de miroir. Mais elle réussit à cacher tout ce qui avait trait au cours de philosophie proprement dit. Elle ne dit pas un mot non plus du portefeuille vert. Elle ne savait pas trop pourquoi au juste, mais elle sentait qu'il fallait qu'elle garde pour elle toute l'histoire avec Hilde. Sa mère l'entoura affectueusement de ses bras. Sophie comprit qu'elle la croyait enfin.
« Je n'ai pas de petite amie, » avoua-t-elle en pleurnichant. « J'ai juste dit ça parce que tu étais si inquiète à cause de ce que je racontais sur le lapin blanc. »
« Alors comme ça tu es allée jusqu'au chalet du major ?» reprit sa mère toute pensive.
« Au chalet du major ?»
demanda Sophie en ouvrant de grands yeux. « La petite maison que tu as découverte dans la forêt a été surnommée le chalet du major, ou Majorstua, si tu préfères, parce qu'un vieux major a vécu là, il y a bien longtemps de ça. Il était un peu bizarre, disons, un peu fou, Sophie. Mais à quoi bon penser à lui maintenant? Ça fait une éternité que plus personne n'habite le chalet.
c'est ce que tu crois, mais il y a un philosophe qui y habite à présent.
Écoute, ne te laisse pas encore une fois emporter par ton imagination.
Sophie resta dans sa chambre à réfléchir à tout ce qui lui était arrivé.
Sa tête bourdonnait comme un cirque en pleine effervescence avec des éléphants aux palourdes, des clowns facétieux, des trapézistes intrépides et des singes apprivoisés. Une image ne cessait de la poursuivre, celle de la petite barque avec une des rames à la dérive sur le lac tout au fond de la forêt. Quelqu'un en avait pourtant besoin pour rentrer chez lui. Elle savait que le professeur de philosophie ne lui ferait aucun mal et qu'il lui pardonnerait s'il apprenait que c'était elle qui était entrée dans le chalet. Mais elle avait rompu le pacte. Était-ce ainsi qu'on remerciait quelqu'un de vous instruire en philosophie? Comment se rattraper après une sottise pareille?
Sophie sortit le papier à lettres roses et se mit à écrire.
Cher philosophe, c'est moi qui suis venu au chalet tôt dimanche matin. Je voulais tellement vous rencontrer pour discuter plus précisément de quelques points de vue philosophiques. Je suis pour l'instant une fan de Platon, mais je ne suis pas si sûr qu'il ait raison de croire que les idées ou les modèles d'images existent dans une autre réalité.
Ils existent bien sûr dans notre âme, mais cela est, à mon humble et provisoire avis, une toute autre histoire.
Je dois aussi vous avouer ne pas encore être tout à fait convaincu que notre âme soit immortelle. Personnellement, je n'ai en tout cas aucun souvenir de mes vies antérieures. Si vous pouviez me convaincre que l'âme de ma grand-mère défunte est heureuse dans le monde des idées, je vous en serais très reconnaissante. À vrai dire, ce n'est pas pour parler de philosophie que j'ai commencé à écrire cette lettre que je vais glisser dans une enveloppe rose avec un sucre dedans. Je voulais juste vous prier de me pardonner d'avoir été désobéissante. J'ai essayé de tirer toute la barque sur la rive, mais je n'étais pas assez forte. D'ailleurs, il est possible que ce soit une vague plus grosse qui l'ait entraînée à nouveau vers le lac. J'espère que vous avez réussi à regagner à pied sec la maison. Sinon, sachez, si cela peut vous consoler, que pour ma part, je suis rentré trempé et aurais probablement un bon rhume. Mais je l'aurais bien mérité. Je n'ai touché à rien dans le chalet. Mais j'ai malencontreusement cédé à la tentation de prendre l'enveloppe avec mon nom écrit dessus. Non que j'aie eu l'intention de voler quoi que ce soit, mais comme mon nom était inscrit sur l'enveloppe, j'ai eu quelques secondes l'illusion que l'enveloppe m'appartenait. Je vous prie instamment de me pardonner et vous promets de ne pas vous décevoir une autre fois. PS. Je vais tout de suite réfléchir aux questions posées sur la feuille.
PPS.
Le miroir en laiton au-dessus de la commode blanche, est-il un miroir tout à fait normal ou est-ce un miroir magique? Je demande cela parce que je n'ai pas l'habitude de voir mon propre reflet cligner des deux yeux à la fois. Votre élève sincèrement intéressée, Sophie.
Sophie relut la lettre deux fois avant de la glisser dans l'enveloppe. Elle lui paraissait en tout cas moins solennelle que la précédente lettre qu'elle avait écrite. Avant de descendre à la cuisine, chiper un morceau de sucre, elle ressortit la feuille avec les exercices intellectuels de la journée. Qu'est-ce qui vient d'abord? La poule ou l'idée de la poule? La question semblait au premier abord aussi ardue que le vieux problème de la poule et de l'œuf. Sans œuf, il n'y avait pas de poule. Mais sans poule, il n'y avait pas d'œuf non plus. Était-ce aussi embrouillé pour trouver si c'était la poule ou l'idée de la poule qui venait d'abord au monde?
Sophie comprenait ce qu'avait voulu dire Platon.
L'idée de la poule existait dans le monde des idées bien avant qu'on ne trouve la moindre poule dans le monde des sens. Selon Platon, l'âme avait vu l'idée de la poule avant qu'elle ne s'incarne dans un corps. Mais n'était-ce pas précisément sur ce point qu'elle n'était plus d'accord avec Platon? Comment un être humain qui n'aurait jamais vu de vraie poule, ni aucune image de poule, pourrait-il se faire une idée de ce qu'est une poule? Cela l'amena à considérer la question suivante. L'homme a-t-il des idées innées? Rien de moins évident, pensa-t-elle. On ne pouvait guère prêter à un nouveau-né des pensées très élaborées. D'un autre côté, on ne pouvait être aussi catégorique, car un enfant n'avait pas nécessairement la tête vide parce qu'il ne savait pas parler. Cependant, il faut bien d'abord voir les choses au monde avant de savoir quelque chose à leur sujet. Quelle est la différence entre une plante, un animal et un être humain? La différence sautait aux yeux. Sophie ne croyait pas, par exemple, qu'une plante ait une quelconque vie affective. Avait-on jamais entendu parler des peines de cœur d'une jacinthe des bois? Une plante pousse, puise de la nourriture et produit de petites graines qui lui permettent de se reproduire. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter à cela. Mais Sophie se rendit compte que cela aurait tout aussi bien pu être dit pour un animal ou un homme. Les animaux avaient certes des qualités particulières en plus. Ils pouvaient se déplacer. Avait-on jamais vu une rose courir à 100 mètres? Quant aux différences entre les animaux et les hommes, c'était plus difficile à cerner. Les hommes pouvaient penser. Mais les animaux aussi, non? Sophie était persuadée que son chat, Shere Khan, pouvait penser. Il savait en tout cas agir de façon très calculée. Mais de là à se poser des problèmes philosophiques. Un chat s'interrogeait-il sur la différence entre une plante, un animal et un être humain? Certainement pas. Un chat pouvait se montrer heureux ou contrarié, mais se demandait-il s'il existe un dieu ou s'il a une âme immortelle? Sophie en vint à la conclusion que c'était fort peu probable. Mais il fallait faire ici les mêmes réserves qu'à la question précédente concernant les idées innées, puisqu'il était aussi difficile de discuter de ces problèmes avec un chat qu'avec un nouveau-né. Pourquoi pleut-il? Sophie haussa les épaules. Là, ce n'était pas sorcier. Il pleut parce que la mer devient de la vapeur d'eau et que les nuages s'assemblent pour donner de la pluie. Elle le savait depuis le cours élémentaire. On pouvait bien sûr dire aussi qu'il pleuvait pour que les plantes et les animaux puissent pousser. Mais est-ce que c'était vrai? Un arc-en-ciel avait-il vraiment un but? La dernière question avait en tout cas à voir avec la finalité. Que faut-il à l'homme pour qu'il mène une vie heureuse? Le professeur de philosophie en avait parlé tout au début du cours. Tous les hommes ont besoin de nourriture, de chaleur, d'amour et de tendresse. Voilà qui semblait constituer la première condition pour mener une vie heureuse. Puis, il avait fait remarquer que tous les hommes avaient besoin d'une réponse à certains problèmes philosophiques qu'ils se posaient. Par ailleurs, exercer un métier qu'on aime semblait un élément important. Si l'on détestait par exemple la circulation, autant ne pas choisir d'être chauffeur de taxi. Et si l'on n'aimait pas spécialement faire ses devoirs, autant ne pas devenir professeur. Sophie aimait bien les animaux, et elle se serait bien vue vétérinaire. Nul besoin de décrocher le gros lot au loto pour mener une vie heureuse. Bien au contraire. N'y avait-il pas un proverbe qui disait que « l'oisiveté est mère de tous les vices » Sophie resta dans sa chambre jusqu'à ce que sa mère l'appelle pour déjeuner. Il y avait une entrecôte avec des pommes de terre. Quel régal! Sa mère avait aussi allumé des bougies. Et pour le dessert, il y avait de la crème au baies arctiques. Elles parlèrent de tout et de rien. Sa mère lui demanda comment elle comptait fêter ses 15 ans. Il ne restait plus que quelques semaines jusqu'à son anniversaire. Sophie haussa les épaules. « Est-ce que tu vas inviter quelqu'un? Je veux dire, est-ce que tu veux faire une fête? Peut-être. Nous pourrions inviter Marthe et Anne-Marie. Et Egg, et Joran, bien entendu, et Jorgen, peut-être. Mais je te laisse décider ça toute seule. Tu sais, je me souviens parfaitement de l'anniversaire de mes 15 ans. Cela ne me paraît pas si loin que ça. Je me sentais déjà adulte à l'époque, Sophie. N'est-ce pas étrange? Au fond, je ne trouve pas que j'ai tellement changé. Non, c'est vrai. Rien ne change.
Tu t'es seulement épanoui? Tu es devenu plus mûr?
Oh, ça, c'est parler en adulte.
Je trouve seulement que le temps a passé si vite.